Émilie Lamotte, Lettres sur l'amour, la beauté, la vie, l'inconstance et quelques autres sujets. Mon cher X, excuse, je te prie, le ton quelque peu brutal de ma dernière lettre et mets-le sur le compte de mon état de santé et aussi de cette circonstance que j'ai pensé te dire en une page, ce qui exigerait de longs développements. Le problème sexuel, en effet, dépend d'une foule d'autres qu'on est obligé d'envisager tour à tour. Ainsi, justement, nous parlons d'aimer simultanément plusieurs personnes. Si on aime simultanément, dis-tu, c'est parce qu'on trouve chez tel être des attributs ou caractéristiques moraux ou physiques qui font défaut chez tel autre, et que cela exclut théoriquement la jalousie. Ce qui excite théoriquement n'existe pas pour moi. Je m'attends toujours à voir bousculer et contredire par la réalité. Et de fait, je n'ai jamais vu l'amour exister sans la jalousie. Mais ce n'est pas là ce qui me frappe le plus. C'est l'existence d'un idéal simple ou multiple chez l'amant plural. Je t'assure qu'un tel souci ne peut être que le résultat d'un des horribles résultats de l'éducation vicieuse qui nous est infligée et qui a pour premier effet de fausser en nous l'instinct artistique. La beauté, ce n'est pas ceci ou cela. Une taille élevée ou des cheveux blonds, des yeux larges ou des mains étroites, la force de l'âge ou l'adolescence, la tristesse ou la gaieté. C'est une harmonie. Pas plus, pas moins. Et ça ne se fabrique pas. Le malheureux qui, ayant un idéal, en cherche les morceaux épars dans la nature, se charge d'un travail inutile pour un affreux résultat et ne comprend pas la vie. Il convient à tel être de rester souvent silencieux, d'avoir la parole lente et rare, tandis que c'est un charme aussi saisissant chez cet autre d'avoir la parole rapide et vive, expressive et emportée. Celui-ci est intéressant par sa virile supériorité, et tel autre a raison par son tendre enfantillage, etc. Jusqu'ici, nous sommes à moitié d'accord. Sauf que tu as tendance à corriger les aspects. Tu te rappelles que je t'ai dit que tu étais moraliste en matière d'art. Tu donnais tort à une casserole abandonnée au premier plan d'un paysage qui te plaisait. Or, elle avait sa raison d'être là, qui était d'y être en toute simplicité, et la douce lumière faisait ressortir le beau bleu de son émail avec autant d'indifférence que le riche vert de l'herbe. Je ne connais de lait que le chiquet, et encore. Pourtant, le chiquet comporte sa dose de joie, puisqu'il dégage facilement le grotesque. Cependant, en approfondissant, on s'aperçoit que ce chiquet correspond à torture, et c'est peut-être toute sa raison de nous choquer. Ainsi, Déroulède me dégoûte sans atténuation, quoiqu'il soit extrêmement drôle, parce que ces fourbis, ça ne vient pas tout seul. Il faut se donner du mal pour comprendre ainsi. C'est pas vrai, pas nature. De même, quand je lis Hernani, je me dis, c'est impossible de se mettre dans des états pareils. Tu sais que je suis trivial. Mais tout ce qui est simple a sa raison d'être harmonieuse dans les ensembles. Et même, tiens, ça n'a pas besoin d'être, ça est. Ça ne me gêne pas. Je te prie de me donner une seule bonne raison contre la casserole dans l'herbe. Celui qui aime la vie peut s'attendre à être frappé, saisi, arrêté à chaque pas par la beauté. Certainement, à ce qu'on nous a raconté à l'école, pour que nous devenions moraux, austères et méchants, la beauté court les rues et se dépense sans compter. Et quant à celui qui aime ce délicieux et primordial aspect de la vie, l'amour, à quoi ne doit-il s'attendre? Mais tant pis pour le pauvre bougre, l'infortuné, travailleur, qui a un idéal. Celui-là ne jouira pas de la Joconde, car il n'aime que la blonde aux yeux clairs, et il n'appréciera pas la légère colombine, car il n'aime que les femmes chastes et fidèles. Non seulement la sagesse est de prendre les choses comme elles sont, mais encore, chaque chose est un ensemble auquel il n'y a rien à ajouter. Sous peine de torture impuissante, sous peine que la vie se foute de nous et nous refuse ses joies simples et fortes. Il est donc tout à fait naturel et compréhensible que l'amoureux éprouve diverses amours. C'est même probablement inévitable. Mais où nous ne sommes pouvant pas nous entendre, c'est lorsqu'il s'agit de classer ces amours en première et seconde, de donner le pas à l'une sur les autres, de subordonner les unes à l'autre, de les vivre simultanément. Quoi, moi, cher X ? Car si tu as l'expérience du sentiment, je ne suis pas né d'hier non plus, et tu n'étais pas haut quand je suis venu au monde. Classe-toi hardiment dans les volages. Voici pourquoi. La constance d'un volage n'a aucune valeur à l'égard de l'amour. Le volage appartient toujours, tout entier, à son frisson, à son désir nouveau, et le tendre envers qui est constant. À bout avoir permis, ce tendre se trouve alors dans la situation d'un père, d'une mère, d'un frère dévoué, d'une sœur vis-à-vis du volage. Je ne dis pas que ce n'est pas adorable, mais c'est ainsi. Je ne dis même pas que le caprice de volage ne ramène pas à celui-ci vers qui il lui a plu. Pour des causes quelconques, qui n'ont rien à voir avec l'amour, incorrigible bohémien, vers qui il n'y a pas de s'adjoindre pour compagne ou compagnon en titre. Comprends cette fois, je te prie, que je ne professe nul dédain pour l'amour simplement émotionnel. Je ne crois qu'à lui. Et il ignore les contrats de tout ordre. Convient, avec les poètes et autres voyants, que l'amour a une puissance capable de nous faire tout oublier. Que devient donc, dans une telle aventure, la liaison décidée, entreprise, organisée, je ne sais comment dire, le mariage, quoi. Et j'ajoute, tout le monde est inconstant. La fidélité n'est pas dans la nature. J'entends parfois raconter que les oiseaux nous donnent l'exemple de la fidélité. Oh, je rigole. Est-ce parce qu'un oiseau se plaira près de l'oseille, l'oiselle qui couve, en proie à des émotions qu'il nous est impossible d'approfondir, qu'on osera me soutenir cette bourde énorme? Et quand même on me montrerait, oh, je demande à voir, que les oiseaux sont fidèles entre eux, je penserais qu'ils ont décidé cette attitude pour des raisons sociales, plutôt que de penser qu'ils sont insensibles à l'infinie diversité des rayons, des effets, des nuances, des ombres et des bruits. Non, non, la constance, ce n'est pas vrai, jamais. Je ne prétends pas dire qu'il ne se trouve pas des gens qui sont capables de ne réserver qu'à un seul ou à une seule leurs facultés amoureuses. Mais je soutiens que ce résultat ne peut être obtenu qu'au prix d'un effort de volonté. C'est une affaire d'autosuggestion. Les constants peuvent même arriver à se convaincre qu'ils sont ainsi d'accord avec leur propre nature. Mais alors, ils se montrent le coup, c'est-à-dire qu'ils se rendent coupables envers eux-mêmes de cette mauvaise foi qu'on peut pratiquer sans faire de tort à personne, qui a souvent pour les autres de charmants résultats même, et à laquelle je voudrais bien partager le nom de mauvaise foi. Pour le surplus, ça ne fait rien, car la vie, c'est peut-être des histoires qu'on se raconte et tout n'est sans doute qu'affaire d'autosuggestion. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Mais c'est la volonté qui nous garde à l'un ou à l'autre. Non, la nature. Physiologiquement, nous voyons d'être plus beaux les enfants d'union renouvelée que celles d'un même couple. Indication exceptionnellement importante à mon point de vue. Ainsi donc, il m'est impossible d'apprécier, au point de vue de l'harmonie, l'union des constances et des volages, par la raison que je n'ai jamais vu que des volages. Bien entendu, je ne parle pas des gens chez qui la vie sexuelle est endormie. Il ne faudrait pas les faire figurer comme exemple. D'ailleurs, le sommeil de la vie sexuelle est l'indice de la grande jeunesse ou de la grande vieillesse. Dans le premier cas, elle s'éveillera. Dans le second, elle a été éveillée, sois-en sûr. Je nie l'existence des constants. Pourtant, je sais que l'affection peut prendre entre deux conjoints un caractère d'indestructibilité qui rend déchirante une séparation. Quoique je sache cette douleur très réelle, malheureusement, je ne la crois pas en rapport avec l'amour, mais bien avec un sentiment que non seulement il n'a rien de commun avec l'amour, mais je pense même être absolument exclusif de l'amour. Quand on s'aime bien, on ne s'aime plus, on ne s'aimera plus. Facile à comprendre, l'amour est en fait d'abord de désir. Et dans ces grandes affections, le désir est comblé, c'est-à-dire éteint. Le problème n'en est pas plus gai. La sagesse est de répondre à la nature. Mais il n'y a pas de sagesse, c'est individuel comme tout le reste. Au fond, nous ne savons pas assez que nous sommes nos propres maîtres. Car enfin, comme dit je ne sais quel romancier russe, il n'y a pas d'amour trahi, pas de souffrance, pas de douleur qui ne cède à quelques grammes d'opium. J'ai dans ma poche le sommeil qui tue la souffrance.